Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ma mission, vous la connaissez chaque jour. Vous montrer qu'il y a en France des projets qui valent le coup et des gens qui se donnent du mal pour les réaliser et les faire prospérer. Aujourd'hui, réveillon oblige. On va se mettre sur son 31 et faire la fête avec les acteurs français du secteur. Elle aura bientôt 100 ans. Son nom est synonyme d'excellence. Petrosian est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis la générosité s'exprime pour les fêtes. La Fondation de France a pensé à ceux qui sont seuls. Elle met en place les réveillons solidaires. C'est la solution pour lutter contre l'isolement. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1. 39-21, on vous attend. Venez nous dire si vous allez vous mettre sur votre 31 ce soir pour réveillonner. On attend vos appels, Géraldine notamment, et puis on vous attend aussi sur Twitter.
Sur Twitter avec le hashtag Europe 1, réagissez.
Oui, parce que c'est une tradition hein, partout dans le monde. Chacun à sa manière célèbre la fin de l'année. Salut à minuit, bien sûr, l'arrivée d'une nouvelle année. Et pour ça, évidemment, on se fait beau. Mais investir dans une robe ou un ensemble chic qu'on sort une fois par an n'est pas à portée de toutes les bourses. Alors pour accueillir nos invités à mes côtés, on retrouve comme chaque jour ma complice Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous dans le studio Lagardère.
Et notre coach évidemment, c'est Catherine Testa qui est avec nous aujourd'hui, cofondatrice de l'Optimisme et du club des Chief Happiness Officer. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous pour ce 31. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà votre tenue pour ce soir, mais si vous ne l'avez pas, il y a un moyen, c'est la location de vêtements. Bonjour Agathe Cuvelier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé les cachotières justement pour ces occasions. C'est ça qui vous a donné envie de mettre à notre disposition des vêtements de luxe parfois?
Oui, alors lescachetières.com, c'est un site de location de vêtements chic qui vous permet de retrouver donc sur le site directement plus de 2000 tenues que vous pouvez louer directement via le site. Donc il y a des robes, des combinaisons, des vestes que vous louez pour 35 à 55 euros. Donc ce sont des marques haut de gamme. Le prix comprend le transport aller-retour et le pressing. Vous êtes livré directement chez vous, vous portez la tenue, vous en profitez pour la durée que vous avez choisie. Et ensuite, vous nous la retournez et nous, on s'occupe du pressing. Donc vous n'avez rien à faire, pas besoin de nettoyer la tenue. Et vous payez uniquement ce que vous avez porté.
Ça veut dire que vous avez encore aujourd'hui, par exemple, des gens qui vous contactent sur les cachotières et qui vous disent j'ai pas trouvé, j'ai besoin d'un vêtement pour ce soir, pour le 31.
Alors là, pour ce soir, maintenant, c'est un peu tard, juste, hein. Mais on peut commander du jour au lendemain. Donc on peut commander jusqu'à 16h et être livré le lendemain matin. Parce que c'est par internet, donc tout est livré directement.
Et donc hier, vous avez vu un pic de demande, un pic de fréquentation?
Oui, alors surtout le mois de décembre, parce qu'il y a eu Nouvel An, mais il y a eu aussi Noël, il y a eu toutes les fêtes qui ont duré pendant le mois de décembre. Et donc on a près de 700 tenues qui sont sorties là pour ces occasions.
Elisabeth, les tenues d'occasion, le marché des tenues d'occasion, ça se développe hein, énormément.
Mais oui, et ça va encore se développer parce que c'est simple, hein, en un clic sur internet, vous allez porter cette magnifique robe en satin dont vous avez toujours rêvé. Elle est là, c'est par un grand créateur et elle va être à vous pendant quelques jours. La location de vêtements, c'est l'une des alternatives à l'achat. Ça arrive en France, l'intérêt économique, vous le comprenez, hein, il est évident. Pour 150 euros par exemple, vous allez pouvoir porter une robe de créateur qui coûte en magasin 2000 euros, 2700 euros à l'achat contre 190 à la location, ou bien encore 100 euros contre 700 pour une seconde location. Prix moyen pour une tenue, alors je ne sais pas chez vous combien c'est.
Alors chez les cachetières, on est beaucoup plus bas que ça.
Vous êtes c'est vraiment moitié 30, du marché, hein, c'est ça.
35 et 55 euros pour 4 jours, qui comprend le transport aller-retour et le pressing. Et c'est des tenues qui coûtent entre 250 et 700 euros.
C'est 10 fois plus économique qu'un achat.
Alors, racontez-moi, exactement, comment vous faites pour tirer les prix comme ça parce que tous les autres, ou la plupart des autres enseignes, sont effectivement beaucoup plus chères. Donc, vous avez une astuce, un secret?
Alors, premièrement, c'est des vêtements qui viennent de particuliers. Donc, ils nous les confient pour les mettre à la location, ce qui fait qu'on n'achète pas le stock, mais ça vient déjà de personnes qui les ont achetés, qui les ont portés une fois ou deux et ensuite qui nous les confient. Donc, elles touchent une commission à chaque fois que leur tenue est portée. Donc, les vêtements sont centralisés chez nous, on s'occupe de tout, on gère les locations, elles n'ont rien à faire et elles reçoivent une commission à chaque fois que c'est loué. Et la deuxième chose, c'est qu'on est positionné sur du moyen haut de gamme, donc c'est quand même des marques haut de gamme, mais c'est pas du luxe parce que nous, on part du principe que quand on va avoir un événement familial, une soirée, un mariage, on va pas forcément pouvoir porter une robe Chanel, mais par contre du Maje, du Sandro, du Cézanne, vraiment des marques haut de gamme, mais accessible à toutes.
Que dit notre coach, Catherine Testa ?
Alors que j'ai beaucoup de vêtements à mettre chez première chose. Et surtout que ça correspond à un nouveau mode de consommation. Aujourd'hui, finalement, quand on loue en ligne un vêtement, on choisit, on commande, on reçoit, on porte. Et finalement, moi, j'ai plein de tenues que j'ai portées qu'une fois, en l'occurrence, et que j'ai dû acheter un peu sous la contrainte d'un mariage à court terme. Ce genre de site, c'est excellent, ne serait-ce que, pour, comme le disait Isabelle, pour la protection de l'environnement aussi, et pour répondre à une consommation qui est différente. Aux États-Unis, on a l'habitude de faire ça, en fait.
Alors justement, elle vous est venue comment, cette idée de monter les cachotières ? C'est assez récent, vous existez depuis 2016, je crois.
Ouais, le site a été lancé en mars 2016. Et en fait, c'est parti de deux choses. D'un côté, je travaillais dans la mode, donc j'étais styliste. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que l'économie, enfin, que le textile était vraiment une industrie très polluante. Et on a entre 20 et 40% des collections qui sont invendues à chaque fois et qui sont soit stockées pendant des années, soit jetées.
Et donc il y avait une conscience écologique derrière.
Oui. Et d'un autre côté, j'avais toujours envie de porter une nouvelle tenue à chaque occasion et j'avais à cette époque-là beaucoup de mariages et beaucoup d'événements auxquels je devais bien m'habiller. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée des cachotières qui, en fait, est un concept génial puisque à la fois, ça permet aux femmes de s'éclater avec la mode, donc de pouvoir porter ce qu'elles veulent quand elles veulent. Et à la fois, elles consomment mieux, elles évitent le gaspillage et surtout, elles dépensent beaucoup moins.
Donc 2016, vous créez. Et ensuite, comment est-ce que vous vous faites connaître ? Ça marche tout de suite ? Ça démarre tout de suite ?
Alors là, aujourd'hui, les gens ont encore beaucoup de freins face à la location de vêtements. Mais petit à petit, et surtout grâce aux réseaux sociaux et au fait qu'on voit de plus en plus de personnes qui testent ou des blogueuses ou des personnalités qui disent qu'elles ont porté et loué des vêtements, ce qui fait que la notoriété commence à grossir. Et là, on a aujourd'hui près de 10 000 clientes. On a 2 000 tenues sur le site lescachotières.com.
Elisabeth, ça montre qu'il y a un vrai, vrai changement dans nos habitudes finalement de consommation, y compris dans le vêtement.
Mais oui, et puis ça paraît évident quand on y pense, plutôt d'acheter, de posséder une tenue hein, pour ne la porter qu'une seule fois. Pourquoi ne pas la louer, surtout si c'est pour en profiter quelques heures et puis pour celles qui le souhaitent, ces plateformes de location proposent aussi ensuite d'acheter le vêtement et là à prix réduit aussi. Vous, c'est votre cas ?
C'est la même chose chez les cachotières ?
Alors nous, pour le moment, on propose que dans certains cas où vraiment on a une cliente qui a un coup de cœur et qui souhaite acheter la robe après l'avoir louée, mais ce n'est pas une volonté tout de suite.
On reste ensemble, on continue à parler tenue de soirée pour le 31. Vous allez avoir quelques belles surprises.
Europe 1.
Restez avec nous aujourd'hui, messieurs, vous avez vous aussi la possibilité de vous habiller en tenue de soirée. Et l'accessoire indispensable, c'est évidemment le nœud papillon. A tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. Vous pouvez réagir au 39 21 50 centimes la minute. On parle tenue et accessoires de fête avec vos invités, Raphaël.
Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag et Catherine Testa qui nous fait le plaisir d'être là en ce 31. Elle a d'ailleurs mis ses dorures. Hein. J'ai bien noté, Catherine, cofondatrice de l'optimisme et du club des Chief Happiness Officers. Alors, se mettre sur son 31, ça n'est pas réservé, vous serez bien d'accord avec moi, à la gente féminine. Pour les hommes, le costume ou le smoking sont parmi les options. Et si vous voulez être vraiment, vraiment chic, le nœud pape s'impose. Bonjour Sylvain Leflet.
Bonjour Raphaël.
Merci.
Flé.
Ah,
ouais. Bon, c'est le flageolet en l'occurrence.
Le flageolet, j'avais envie de mettre une petite particule. Ça allait bien avec le nœud papillon, vous voyez.
Ça va très bien, effectivement. Non, ceci dit, c'est pas réservé à ceux qui ont des particules, le nœud papillon.
Non,
c'est
mais
pour
non.
tout le monde, pour toutes les tenues.
Justement, vous avez cofondé le flageolet, en 2012, avec Jérôme. Au départ, qu'est-ce qui vous donne l'envie de relancer finalement la mode du nœud papillon ?
Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, avec Jérôme, on était dans une entreprise, on était obligés de porter le costume et la cravate. Ce qui a très vite galvaudé le côté sympa de bien s'habiller, de choisir son costume, la bonne cravate, etc. Et puis, on s'est retrouvés à cette époque-là, en 2012, à avoir des copains qui se mariaient. Et on se retrouvait, du coup, le samedi à leur mariage, en tenue de travail, en bleu de travail. Et pour casser un peu ça, casser l'ennui de cette tenue devenue banale, on a cherché d'autres choses à porter. Et donc ça c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché des nœuds papes originaux qui apportent un peu de couleur, un peu d'originalité dans une tenue. Et on n'a pas trouvé ce qu'on souhaitait, et donc on les a créés nous-mêmes.
Alors, quand vous démarrez, vous commencez à fabriquer après le travail. Donc, vous enlevez le bleu de travail, hein, comme vous venez de dire. Et puis, vous mettez une autre casquette, celle de fabricant de papillons. Comment est-ce que vous avez procédé ?
C'était très artisanal. Moi, j'avais une machine à coudre, puisque... que j'avais récupéré avec mon grand-père cousait en fait, et j'avais appris dessus. Et du coup, tout simplement, on a acheté des tissus un peu où on pouvait, au marché Saint-Pierre, oui. Un peu partout. Et on a composé des nœuds papes de manière très simple. Au départ, c'était des vrais nœuds papes à nouer, donc on était obligé de nouer soi-même à chaque fois qu'on voulait le porter. Et puis, avec une particularité qu'on a gardée, qui est d'être réversible. Donc il y a une face unie et une face à motif, ce qui permet d'avoir plusieurs manières de le nouer, et puis surtout d'avoir un nœud pape qui est original, qui est coloré, et qui apporte vraiment quelque chose en plus. C'est pas le nœud papillon noir en satin classique pré-noué, mais c'est un nœud papillon qui a de la vie, qui a de la couleur et qui apporte quelque chose de vraiment différent.
Ça signifie que celui que vous portez aujourd'hui, qui est vert, hein, pour ceux qui ne nous suivent pas sur europe1.fr,
assorti à son pantalon, hein.
on peut le tourner et le mettre dans une autre couleur, c'est ça?
Exactement. Je peux le dénouer, le renouer. Alors là, il est côté velours vert, ouais, bleu-vert. Et puis, de l'autre côté, il est à poids et je peux le porter côté entièrement poids.
Bah, vous allez nous faire une petite démonstration et pendant la pub, évidemment, vous le tournerez et vous le mettrez dans l'autre sens. Hein,
aucun problème.
Bon, alors dites-moi, Mika...
Juste pour rassurer, les nœuds papillons maintenant sont vendus avec un système d'attache, donc ils sont déjà pré-noués. On choisit juste en boutique ou sur le site internet le sens dans lequel on veut le nouer. Et puis, si on veut, on peut le renouer et le dénouer et le renouer dans l'autre sens.
Alors, voilà. Il y a Mika et Stromae qui ont quand même démocratisé le port du nœud papillon. Est-ce que ça vous a aidé, vous, à vous faire connaître et à justement percer dans ce milieu, dans ce secteur qui est quand même assez, on peut dire, secteur de niche?
C'est tout à fait une niche. Alors, il y a eu eux et puis c'est pas les seuls. En fait, il y a une grande... un mouvement en fait qui autour de 2012 qui s'est lancé où les gens en avaient globalement assez marre de porter de la cravate, donc du coup ça s'est fait assez naturellement. C'était une vraie tendance qu'on a suivi, accompagné et sur laquelle on a essayé d'insister pour tirer notre épingle du jeu.
Que dit notre coach?
Que la couleur, ça combat aussi la morosité quand il pleut. Est-ce que vous avez essayé de le porter dans votre ancienne entreprise? Vous disiez que vous étiez sous le costard cravate. Est-ce que vous essayez de le porter? Comment c'est perçu en fait? Comment ça a été perçu?
On parle d'habits de fête là aujourd'hui. Le nœud pape, c'est quand même très festif. Okay. Il y a des professions qui sont traditionnellement abonnées au nœud pape, donc les architectes, les médecins, les avocats par exemple. Pour le reste.
Bon, mais dans quoi ils sont abonnés? Moi, mon médecin, moi, ne me reçoit pas en nœud papillon. Hein.
Changer de médecin,
il est pas assez élégant.
Il est pas assez élégant. Non, c'est parce que traditionnellement, c'est chirurgien.
Je ne connais pas le flageolet, mais maintenant, ça va être réparé grâce à vous.
J'espère qu'il écoute. Mais sinon, c'est quand même un accessoire qui est réservé pour la fête, pour des occasions plutôt festives. Donc, le réveillon, toute autre occasion habillée, les mariages. On fait beaucoup de mariages. On a fait 400 mariages cette année pour lesquels on a développé, nous, une offre sur mesure. Donc on peut composer soi-même son nœud pape en choisissant parmi on a 150 tissus à motif, 100 unis, et on compose soi-même son nœud pape en associant différentes couleurs. Donc c'est très festif.
Et alors justement, vous avez enregistré un boom des ventes avant le réveillon. Il y a des gens qui viennent particulièrement choisir un nœud papillon pour cette soirée-là?
Alors oui, effectivement, on fait, 30 à 40% de notre chiffre d'affaires autour des fêtes. Donc en général, c'est un cadeau qui s'offre à Noël pour être porté au réveillon, effectivement.
Et vous en vendez combien par an aujourd'hui?
On vend autour de 7 à 8 000 nœuds papes par an. Plus de la moitié étant réservée au mariage, pour le coup. Et le reste, vraiment axé sur Noël, les fêtes. Ça s'offre pour être porté au réveillon. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on a... un beau choix, on a 150 références et on a un noir, un blanc pour vraiment avoir les références classiques, et à part ça c'est que de la couleur, du corail, du vert, du voilà.
Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est de la fabrication française, c'est important parce que
Absolument. Vous
travaillez aussi avec l'usine Le Minor.
Oui.
Que vous avez racheté.
Exactement, que le flageolet effectivement a racheté en milieu d'année là, mais qui ne fabrique pas nos nœuds papes. Nos nœuds papes, ils sont fabriqués à Roubaix. Dans une usine familiale de 20 personnes.
Donc ça donne du travail, ça maintient de l'emploi.
Exactement. Et c'est un vrai choix parce que ça fait un nœud pape qui est sans doute plus cher que celui qui est fabriqué en Chine, puisque nos nœuds papes sont entre 39 et 45 euros. Mais voilà, pour nous, c'était important de contribuer à maintenir l'emploi en France, surtout sur un secteur textile qui est compliqué, enfin qui est plutôt délabré, et puis parce que aussi c'est un symbole d'élégance à la française, donc pour nous ça avait du sens d'avoir un papillon 100% fabriqués en France.
L'élégance à la française, elle se traduit par une envolée, hein, aujourd'hui, Elisabeth, du nombre de sites où on peut effectivement comme ça louer, bah, pour les hommes un smoking ou pour les femmes une robe de soirée.
Mais pour louer, pour les hommes, vous avez aussi les deux oursons, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet aussi de louer des vêtements pour une occasion particulière. On peut citer Panoply, un robe un soir. Vous avez aussi le Closet qui fonctionne selon le même modèle que les box. Vous pouvez avoir une nouvelle garde-robe à partir de 40 euros par mois, on vous livre vos vêtements à la maison.
Catherine ?
Il faut démocratiser le nœud pape. Pourquoi la cravate ? Pourquoi la cravate à la base et pourquoi le nœud pape ? C'est quoi l'histoire du nœud pape ?
Alors, il y a plusieurs... sur l'historique pur de l'accessoire ? Il y a plusieurs sources, on ne sait pas trop. Moi, je pense que le nœud papillon existait avant la cravate.
D'accord.
Donc, un peu de respect pour le nœud papillon. Il servait, au départ, c'était un nœud simple d'un foulard qui servait à maintenir le col fermé. Et puis après, la cravate a eu plus de succès que le nœud pape. Et puis maintenant le nœud pape revient. Le nœud pape, du coup, a cet avantage de permettre de se distinguer. Il est plus original, il est plus différent et donc il permet aussi d'assumer une différence et une certaine assurance.
Agathe, vous avez des tenues pour hommes chez vous, chez les cachotières ? Vous avez commencé à recevoir, tiens, par exemple, des nœuds papillons ou pas du tout ?
On fait que de la femme pour l'instant.
Que de la femme, mais ça va venir.
Essentiellement des robes et après, on est en train d'ouvrir tous les autres types de tenues, les vestes, les manteaux, les chemisiers, les accessoires. Et donc peut-être un jour des nœuds papillons pour venir compléter la tenue.
Mais la tendance est au smoking pour les femmes aussi.
Et la tendance
est au
smoking.
Du coup, peut-être que vous allez commencer à vendre les femmes aussi.
Alors, on a commencé effectivement et on ne demande que ça, de pouvoir proposer nos papes à des femmes. Oui.
On reste ensemble, on continue à se préparer pour le 31.
Et continue de réagir avec le hashtag Europe 1 sur nos réseaux sociaux. À tout de suite.
Prêt à réveillonner ? Pas tout à fait. Il nous manque les cotillons. Patience, on a ce qu'il vous faut.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Europe 1, il est 13h21, la France bouge avec Raphaël Duchemin, 31 oblige, l'ambiance est à la fête. Quel beau chapeau pailleté,
oui,
Raphaël.
Il tient pas sur ma tête à cause du casque, mais on va y arriver. Alors, faire la fête, vous êtes d'accord que ça peut s'improviser, mais il y a quand même des incontournables quand on veut qu'un réveillon soit absolument réussi. Bonjour Damien Drieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est pas Drieux ? Ah, mon Dieu !
Bonne année.
Vous êtes en avance, mais c'est déjà la nouvelle année en Nouvelle-Zélande. Hein. On y était tout à l'heure, donc ça marche aussi.
Il y en a partout dans le studio.
On va nettoyer après, évidemment. Vous avez créé il y a 7 ans maintenant Fête Sensation. Racontez-moi, comment est-ce que démarre l'aventure ? Pourquoi est-ce que vous décidez de vous lancer dans cet univers-là ? Ça manquait en France ?
Alors oui, tout à fait. Bon, bonjour Raphaël. Donc l'ouverture, le démarrage, il s'est fait comment ? Mais il s'est fait via une idée qui est de s'amuser, une aventure entrepreneuriale. Donc en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, il n'y a en effet en France rien d'organisé dans, je dirais, si vous me citez demain tout de suite un magasin d'articles de fête, qu'est-ce que vous...
Faites sensation, évidemment.
Voilà, faites sensation à partir d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune enseigne distincte, comme on peut le voir dans la grande distrib, dans le prêt-à-porter, dans l'alimentaire, dans le jouet. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'organiser une enseigne prioritairement en Île-de-France, de grands magasins d'articles de fête de 1000 à 1500
mètres carrés. Vous avez voulu devenir finalement une référence, qu'on ne se pose plus la question en se disant où est-ce qu'on va trouver des cotillons pour le 31 ou un masque pour la soirée déguisée. Hop, voilà, vous voulez qu'on se dise c'est forcément chez Fête Sensation, c'est ça ?
Dans l'idée, c'est cela.
C'est ça dans l'idée.
Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est se faire plaisir et que les clients se fassent plaisir dans nos magasins.
Vous vous êtes imposé petit à petit, mais comment est-ce que ça a pris au démarrage ? Parce qu'il y a 7 ans, quand vous débutez l'aventure, il y a tout à faire.
Il y avait tout à faire, en effet.
Où est-ce que vous trouvez les chapeaux, les confettis ? Comment est-ce que vous faites pour démarcher les gens et aller trouver les produits à mettre en rayon ?
Eh bien justement, donc l'idée c'est de, on a un pôle achat qui s'occupe d'aller dénicher et de sourcer des nouveaux produits chaque année parce que les gens ont envie de changer même dans ces articles-là chaque année.
Ça veut dire qu'ils sillonnent un peu les territoires à la découverte de nouveaux produits.
D'aller à l'international aussi puisqu'il y a un grand business qui est un peu le mentor pour moi qui se situe aux États-Unis qui représente 1000 magasins. Donc on a des salons internationaux, on a des spécialistes, des importateurs, des distributeurs qui viennent et qui nous proposent leurs produits et nous sommes aujourd'hui des sélectionneurs de tout ça.
Oui, alors petit à petit vous êtes quand même bien imposé sur le marché puisque aujourd'hui vous avez 10 magasins, je crois que vous avez 17 000 références à l'intérieur, c'est ça ?
Tout à fait, on a environ 5 000 déguisements, 17 000 références à longueur d'année, aussi bien de la décoration festive, la décoration de table, des déguisements, des accessoires, des ballons, des carteries, des cadeaux humoristiques.
Tout ce qu'il faut pour faire la fête. Alors dites-moi, vous choisissez comment ? Comment est-ce que vous sentez par exemple que cette année, si on n'a pas envie de mettre une robe de soirée ou un smoking, si on a envie de se déguiser ce soir pour le 31, comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas ringard et qu'on a le bon déguisement ? Est-ce qu'il y a des tendances par exemple ?
Alors la tendance, puisqu'on est là pour le 31, la tendance elle est indémodable, elle est toujours au disco. Au fluo, aux années 80, voilà. Aux paillettes, voilà, super casquette.
Moi j'adore tout ce qui brille.
Après il y a des tendances qui sont un peu plus détail, quand on peut aller dans le détail, comme par exemple pour ceux qui sortent en boîte de nuit, des lentilles UV, qu'on va pouvoir avoir les yeux de la couleur que l'on souhaite à la lumière noire. On a, le but c'est, on a des thèmes, hein, donc des tenues chic, des tailles choc, on a... énormément de possibilités dans nos magasins, donc autour de ces 17 000
références. Et j'ai vu que cette année, il y avait une chose qui cartonnait particulièrement, c'était les déguisements de la Casa des Papel.
Tout à fait, ça a été un carton toute l'année.
La série de Netflix.
On a vendu, entre les ruptures et les approvisionnements, on était dévalisés chaque année dans tous nos magasins.
C'est-à-dire, vous en avez vendu combien ? Vous savez me donner un chiffre ?
Je ne pourrais pas vous dire exactement les stats, mais en tout cas, dans les rayons, ça ne durait pas longtemps.
Et alors, qu'est-ce qu'on vient chercher le plus quand on pousse la porte de chez vous ? Des cotillons, des déguisements ? Qu'est-ce qui est le plus demandé ?
Alors, le business est 30% environ de décoration festive et de table de fête, 30% de déguisement et 20% comme le bouquet de ballons que je viens de vous apporter. Donc, l'idée, c'est au lieu d'arriver avec un bouquet de fleurs dans une soirée, vous arrivez avec un bouquet de ballons. Et l'objectif est donc de faire sensation, puisque chez Fête Sensation, c'est l'idée.
Et oui, c'est même le nom, hein. Donc vous avez intérêt à faire sensation. Elisabeth, c'est un marché qui se porte plutôt bien, non ?
Mais oui, alors ça reste un marché de niche, mais ça se porte plutôt bien depuis les années 90. Des magasins spécialisés dans les déguisements, les cotillons, les articles de fête se sont implantés majoritairement en périphérie des villes. Et donc, ils se concentrent sur les articles de fête. Alors, le secteur a connu une légère baisse d'activité et de chiffre d'affaires entre 10 et 20% selon les régions il y a environ 2 ans. Mais dedans, le marché de la décoration festive sort du lot avec une croissance de 1,7%. Mes derniers chiffres sont de 2016, mais peut-être que c'est un peu la votre tendance aussi chez vous.
Vous confirmez, Damien ?
Alors, je confirme pas vraiment ces chiffres. Hein, aujourd'hui, c'est peut-être des statistiques nationales.
C'était 2016, donc.
2016. Donc, aujourd'hui, nous, on a créé l'enseigne en 2011 par rapport à une reprise d'un premier magasin de fête à Caen, qui est toujours aujourd'hui un
d'une tendance générale et non pas de votre magasin en particulier.
Oui, on est quand même sur des croissances à deux chiffres dans notre métier. Donc, aujourd'hui, on est chez Fête Sensation sur des croissances... encore plus belle, mais...
C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires florissant.
C'est un métier qui, aujourd'hui, je dirais que dans ce secteur, les gens sortent de la morosité. On ne vend pas que un chapeau à paillettes, on vend aussi... alors, je ne vais pas vous reparler d'expérience client, parce que c'est aujourd'hui, tout le monde met un peu d'expérience client sur son modèle économique, mais c'est aujourd'hui une vérité. Lorsque vous rentrez dans les magasins, vous voyez les clients danser, s'amuser, rire, et on vend surtout du sourire.
Vous avez une centaine d'employés, je crois que votre chiffre d'affaires est en hausse de 30%, c'est ça, si je ne me trompe pas,
ouais,
depuis
la création. Ouais.
Vous avez des projets, vous avez envie de faire de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles boutiques, vous en avez 10 déjà, en peu de temps.
On a aujourd'hui, l'enseigne est expérimentée en franchise depuis maintenant 3-4 ans. Donc on a nos deuxièmes franchisés, je les salue, du Grand Lyon, qui ont ouvert leur magasin de Saint-Bonnet-de-Mur il y a maintenant 2-3 mois. Vous pouvez les retrouver aussi à Chasse-sur-Rhône. On a des magasins en Ile-de-France, à Villiers-sur-Marne, à Clessouilly, qu'on vient d'ouvrir il y a 2 mois, à Orgeval. à Metz, à Caen.
Oui, ça veut dire que les gens ont envie de faire la fête, ont en tout cas besoin de faire la fête.
Ben, on ressent, nous, une vraie demande. C'est vrai que quand un magasin ouvre, il ne met pas un an ou deux ou trois à être à maturité.
Que dit notre coach ? C'est son rayon, hein, le bonheur.
Exactement. Et en plus, j'ai été regarder les valeurs de votre entreprise parce que vous êtes un jeune créateur, finalement. Vous avez une centaine d'employés. Et quelque chose de très intéressant sur votre site, c'est que vous mettez en avant vos collaborateurs. Vous mettez en avant les personnes qui travaillent dans les magasins. Vous les appelez les super-héros. Du coup, j'imagine que vous cherchez à créer une symétrie des attentions entre ce que vous offrez aux personnes qui travaillent avec vous et ce que vous offrez aux clients.
Ma vie est faite de rencontres et faite de sensations. C'est une vraie aventure humaine avant tout. J'ai pas fait un parcours de licence d'article de fête suivi d'une maîtrise en déguisement, en fonction. Donc je me suis lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui m'accompagnent font partie de ce succès et de cette aventure. Et au quotidien, et heureusement, j'ai des super collaborateurs qui font ce métier au sérieux, même si c'est un métier assez ludique.
On reste ensemble, on continue à préparer le 31 sur Europe 1.
Il est 13h29.
39-21, venez poser vos questions à nos invités et dites-nous quel budget vous êtes prêts, tiens, à débourser pour le réveillon. A tout de suite.
Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Raphaël Duchemin, c'est la France qui bouge. Très beau chapeau, Raphaël.
Ouais, j'essaye de
l'ambiance
mettre,
c'est à la fête. Moi, j'y arrive pas.
Non, moi non plus.
Il y a le casque.
Ah oui, bah on va continuer à faire la fête avec les auditeurs qui nous appellent au 39-21 et puis avec nos invités autour de la table. À mes côtés, vous le savez, Elisabeth Assayag, Catherine Testa qui est notre coach aujourd'hui, cofondatrice de l'Optimisme et du club des Chief Happiness Officers. Et puis nos invités, Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières qui loue des robes de soirée notamment, mais pas seulement. Sylvain Flay qui est cofondateur du Flageolet, les nœuds papillons made in France. Et Damien Drieux, président fondateur de Fête Sensation. Une dizaine de magasins aujourd'hui de cette enseigne d'articles de fête. J'ai envie qu'on accueille tout de suite ensemble François. François qui est à Paris et qui a très envie, je crois, de nous parler de son réveillon de ce soir. Bonjour François.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci de rien, je suis en plein préparatif justement.
Bon, et alors qu'est-ce que vous préparez ?
Alors le thème de la soirée ce soir, c'est Gatsby le Magnifique.
Ah ben bah, là, il y a du nœud papillon dans l'air, alors.
C'est ça, oui, ou du foulard aussi, de l'accessoire. Pour les hommes, c'est le chapeau. Et les femmes, c'est le bandeau de tête en paillettes avec la plume sur le côté ou le bijou. On a aussi le faux allume-cigarette, enfin fume-cigarette. Évidemment, il y a plus d'accessoires pour les filles, comme toujours. Mais sinon, voilà, c'est la chemise. On met le gilet, la chemise rayée, la veste, la vieille veste en tweed. Et j'ai lancé le thème de faire au chic bas choc, c'est-à-dire le haut habillé style Gatsby et le bas actuel.
Ah bon ? Ah oui.
Donc on peut garder une paire de derby, un slim noir, et puis en haut mettre le petit côté classe avec la veste, la chemise, le gilet, le nœud pape et le chapeau.
Et les convives sont toutes d'accord pour jouer le jeu ?
Ah mais c'est pas décor, ils sont tous excités. Du coup, on a commandé des accessoires en plus pour ceux qui n'en ont pas. À l'entrée, à l'accueil, quoi, de la soirée.
Le thème va se poursuivre, je suppose, avec la musique.
C'est ça, on part sur de l'électro-swing. Donc, c'est tous les titres un peu des années 20 et 30 qui sont remixés par deux DJ qui sont assez connus. Alors, je ne sais pas si on a le droit de donner des noms à l'antenne.
Allez-y, oui.
C'est Bart & Baker qui sont spécialisés là-dedans. Et ils ont au moins 5-6 compilations de thèmes. Alors, il y a aussi des chansons françaises assez drôles de l'époque qui sont remixées avec les rythmes actuels. Et ça marche vraiment très bien.
Que dit notre spécialiste du déguisement, Damien Drieux, ce type de soirée à thème, les gens affectionnent particulièrement ?
Bien oui, je connaissais pas ce thème-là, mais aujourd'hui il y a des milliers de thèmes, donc la soirée va sûrement être sympa. L'idée aujourd'hui, quand vous rentrez chez Fête Sensation, c'est justement certains ont un thème, mais certains n'en ont pas. Et nous avons donc des conseillers qui sont là pour vous aider à réussir votre fête, puisqu'aujourd'hui ce qui est vraiment dur, c'est de réussir sa fête. C'est que la personne qui organise ce 31, on lui dise en sortant, ou si on a encore la capacité de lui dire, ta fête c'était vraiment top. Donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de réussir une fête, et c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que dans nos magasins physiques, on peut essayer ses déguisements en cabine et avoir des vrais conseils. Gatsby le Magnifique, il faut tout de même...
Ouais, ça demande un petit peu, voilà, de recherche. Ouais.
Exactement, mais c'est ça qui est sympa.
C'est pas le déguisement de Blanche-Neige ou la méchante sorcière, quoi.
Exactement.
Que dit notre spécialiste du bonheur, notre Chief Happiness Officer, Catherine Testa ?
Je me pose surtout des questions. Est-ce que vous auriez des idées de thèmes à nous donner ? que vous avez trouvé rigolo et qu'on vous demande souvent, par exemple?
Bon, les idées de thème, c'est toujours ce qui est un peu farfelu. Moi, j'aime bien la soirée où on choisit une lettre, hein, et on doit se déguiser dans la lettre qui va. Donc, et l'idée, c'est d'échanger et de se dire, tiens, toi, quelle pouvait être ta lettre? Des idées un peu nouvelles. Alors aujourd'hui, mon équipe serait bien meilleure que moi pour vous donner des idées. Je suis plus aujourd'hui...
Entre déguisement et costume traditionnel, location de robe, location de smoking, il y a un point commun. Vous sentez, vous, cette envie de fête dont on parlait tout à l'heure, Sylvain?
Nous, chez les Cachotières, on a souvent des personnes qui sont invitées à ce genre de soirée, comme par exemple la Gatsby Magnifique. On pourrait tout à fait leur proposer une tenue qui serait très chic, du coup, mais qui ne serait pas forcément farfelue. Mais on a toute une sélection de robes style années 20, donc des jolies robes à paillettes, fines bretelles, qui iraient parfaitement avec le bandeau à paillettes et la plume, comme il disait tout à l'heure.
Même chose pour vous, hein,
c'est pareil. Ce qu'on retrouve, c'est le côté festif. On a envie de changer, on a envie de sortir un petit peu de ses vêtements habituels et donc d'apporter une touche d'originalité. Alors nous, on n'est évidemment pas dans un business de déguisement, mais pour autant, le nœud papillon se prête tout à fait à ce genre de soirée, puisque en étant très très élégant, on peut avoir un nœud papillon, un vrai nœud papillon noué d'un certain côté, etc., qui se cale tout à fait au thème.
On a Sandy, je crois, qui est en ligne avec nous, qui a composé le 39-21 pour nous raconter le réveillon de l'année dernière. Sandy qui est à Paris. Bonjour Sandy.
Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Alors, mon réveillon de l'année dernière, c'était sur le thème Rome antique. Et du coup, on était parti sur l'idée que certains n'avaient pas trop envie d'investir beaucoup d'argent dans des tenues. Donc c'était une idée aussi de pouvoir créer son propre costume. Bon, moi je vous avoue que je suis quand même allée chercher une très jolie longue robe de soirée que j'ai agrémentée de bijoux et de dorures.
Oui.
C'était la thématique. Et puis certains sont venus avec un drap.
Ah bah ça marche aussi.
Juste quelques feuilles. Ça marche aussi. C'était dans la thématique. Et puis c'était surtout très drôle parce qu'au départ on pensait que certains n'oseraient pas se déguiser et finalement ça a été tellement drôle que tout le monde a joué le jeu et c'est ça qui est marrant quoi.
Oui, c'est ça qui est sympa.
Ce quoi on est prêt pour une soirée.
Vous confirmez Catherine, hein, on a besoin, on a envie de ces moments de fête où finalement plus rien d'autre ne compte.
On a aussi besoin de décompresser tout simplement et le fait de rentrer dans un personnage ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Donc c'est pour ça, ces soirées un peu déguisées où on vous dit, tiens, on rentre dans le rôle d'un personnage et tout d'un coup, on se permet peut-être d'être un peu plus authentique, d'être un peu plus soi et de s'amuser un peu plus, effectivement. Et peut-être aussi qu'on fait de plus en plus de soirées chez soi. Il y a aussi un retour à l'organisation d'événements. Alors, je ne sais pas.
Je confirme. Voilà. Il y a de plus en plus d'organisations chez soi du fait, alors malheureusement, à ce qui a pu arriver ces derniers temps avec des attentats, les gens osent moins sortir, même si je n'ai qu'une envie, c'est que les discothèques, les restaurants et toute l'activité événementielle fonctionne.
Oui, parce que vous
travaillez aussi avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fournit évidemment les grandes discothèques parisiennes, les restaurants, les traiteurs, les boîtes dans l'événementiel. Et donc, on est un peu en back-office. C'est ceux ils viennent chercher des idées et des articles dans nos magasins pour pouvoir faire sensation dans leur soirée. Et en effet, on ressent de plus en plus un do-it-yourself.
Ce besoin, finalement, de revêtir un vêtement différent et de devenir, l'espace de quelques heures, un autre, une autre, vous le ressentez aussi chez les clients qui viennent frapper à votre porte quand on porte un nœud papillon, quand on porte une robe de soirée, Agathe, Sylvain?
Oui, chez les Cachotières, nous, on le ressent complètement. Et justement, c'est l'intérêt de la location. Ça permet de pouvoir aller porter des tenues qu'on n'aurait pas forcément osé s'acheter ou ni osé porter tous les jours. Mais par contre, le temps d'un soir, le temps de quelques jours, on peut s'accorder ce genre de folie avec une robe qu'on va louer plutôt que d'acheter.
Sylvain?
Oui, c'est pareil. Le nœud papillon, c'est vraiment, pour le coup, c'est nos clients qui viennent nous chercher un accessoire d'exception. C'est pour un moment particulier. Donc, ils font la démarche d'aller chercher le nœud papillon, la couleur qui va aller avec le reste. Et donc, il y a effectivement cette démarche. Ouais.
Damien, d'un mot, je voudrais qu'on précise que vous embauchez, c'est important de le dire. Hein, créer de l'emploi en France, c'est quand même important de le spécifier parce que il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens pour qui le 31 ce soir ne sera pas forcément festif. Donc, c'est bien de se dire qu'il y a encore des gens qui peuvent proposer du travail ici, chez nous.
Tout à fait. Donc, on embauche 35 personnes en CDI sur l'Île-de-France l'année prochaine. Enfin, quand je dis l'année prochaine,
2019,
dans deux jours.
Dans quelques jours. Hein.
Quelques heures.
Donc, n'hésitez pas. On cherche des postes de responsables, d'adjoints, de première vendeur, première vendeuse, vendeur, avec des postes de référents. Donc, l'idée, c'est d'être chacun spécialiste de quelque chose et des. Et on est en train de travailler énormément sur la quête de sens.
Donc vous les formez parce qu'ils ne sont pas forcément spécialistes en arrivant.
Alors aujourd'hui, en fait, on a l'avantage d'avoir des magasins qui se développent à côté d'autres, hein, comme la Clessouilly qui a ouvert pas loin de Villiers-sur-Marne. Ça nous permet d'avoir une équipe qui arrive avec 4 personnes qui forment les nouveaux. On ouvre donc 2 magasins dans le sud de Paris prochainement. On va faire exactement la même chose. Donc l'idée, c'est de créer des nouveaux postes, mais de faire avant tout émerger les compétences internes.
Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus passer un petit bout de cette journée du 31 avec nous. On vous souhaite évidemment un bon réveillon et on se retrouvera forcément l'année prochaine en 2019.
Merci à vous.
Merci.
Il est 13h40.
Europe 1.
Son nom est pour tous synonyme de caviar et d'excellence. Petrosian est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1,
midi 30, 14h.
Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
13h-14h, vous écoutez La France qui bouge avec Raphaël Duchemin. Il sera peut-être dans vos assiettes ce soir. C'est le caviar, Raphaël, on en parle.
Oui, La France bouge avec Elisabeth Assayag à mes côtés et Catherine Testa, cofondatrice de l'Optimisme et du club des CHO, Chief Happiness Officer, qui est notre coach aujourd'hui. Et l'entreprise dont nous parlons fêtera bientôt, en 2020, ses 100 ans. Bonjour Armène Petrosian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Elle porte votre nom, cette entreprise, celui de votre famille, parce que c'est votre père et votre oncle qui l'ont fondée ici même, à Paris.
Tout à fait. En 1920, ils ont créé cette entreprise. Et en faisant connaître le caviar aux Français, puisque avant eux, le caviar était totalement inconnu.
Alors, la Première Guerre mondiale vient tout juste de s'achever, hein, 1920. Qu'est-ce qui leur donne, à eux, l'idée de se lancer dans cette aventure-là, dans celle du caviar?
Alors, eux, ils faisaient partie en fait, du Caucase, c'était l'Empire russe. C'est-à-dire qu'on oublie toujours qu'à l'époque, c'était l'Empire russe, et non pas l'Union soviétique, qui est venue après. Donc, l'Empire russe, c'était aussi le caviar, c'était aussi quelque chose de très connu depuis en Russie, et très, très sympathique, le caviar. Et donc, ils connaissaient le caviar localement, ça n'existait pas en France, ils ont eu l'idée de l'importer. Et bien sûr, c'était les Soviétiques qui étaient là à cette époque-là.
Et alors, j'ai lu qu'on leur demande à l'époque de changer de nom. On leur dit Petrosian, c'est peut-être pas idéal, pas changer tout ça.
Tout à fait, quand ils créent leur marque, tout le monde leur dit, attendez, il faut franciser votre nom, vous prenez un nom de fantaisie, ça va pas, tout le monde va, on est contre les étrangers, vous êtes en train de créer une marque avec un nom à consonance étrangère, c'est complètement idiot. Et eux, ils ont dit, rien à faire, ils restent là, et en plus, ils créent non seulement une marque, mais ils créent aussi un logo qui est vraiment le marketing
navire.
Avant l'heure. Ils créent une couleur, un
bleu.
Bateau, le nom, c'est un ensemble. C'est vraiment du marketing qui n'a jamais bougé, je vous signale, depuis 1920.
Alors, racontez-moi, comment ça se passe au démarrage? Ils ont du mal ou ça prend tout de suite?
Non, ils ont eu beaucoup de mal. Parce qu'au départ, c'est un produit... On ne se rend pas compte.
On ne connaît pas, on est un peu méfiant.
Les turgeons, c'est quoi? Les œufs, pourquoi? Il ne faut pas oublier que les œufs de poisson, en général, ils ne sont pas très consommés non plus à l'époque. L'œuf de poisson est un peu dangereux parce que c'est avec les viscères, tout ça. Donc on le jette. Donc c'est dangereux, entre guillemets. Donc il n'y a pas une habitude de consommation d'œufs de poisson. Alors qu'en Russie, c'est quelque chose qui était connu depuis très longtemps. Donc vous voyez, il y a quand même une question de culture.
Alors, les œufs d'esturgeon, ils n'ont rien de particulier comme ça quand on les récupère. En revanche, ce qui fait la grande différence, c'est les recettes, c'est la manière dont on va les travailler.
Alors, il y a deux choses, puisqu'aujourd'hui, on parle,
différentes provenances,
on ne parle que d'esturgeon d'élevage. L'esturgeon sauvage est interdit partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose à
préciser.
Toujours,
vous avez raison.
Toujours. Et ensuite, il y a plus de 150 fermes dans le monde.
Ouais, vous serez d'accord pour dire que ceux d'Iran, ceux de France ou ceux d'Ossétie n'ont pas forcément le même goût.
Non, justement, ce n'est pas le pays qui compte. Ce qui compte, c'est l'endroit, c'est la ferme. Puisque c'est quelle manière cette ferme-là va travailler, quelle méthode elle va appliquer, quelle nourriture elle va donner. Donc moi, je parle non pas de pays, mais de ferme d'abord. Et nous, on sélectionne prennent les meilleures fermes dans le monde et partout, que ce soit dans le continent américain, le continent asiatique, en Europe et même en Afrique.
Vous arrivez, vous, en 1992, c'est ça ?
Voilà, j'arrive un peu plus tôt que ça. Quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale en 72...
Mais vous prenez les rênes en 92.
Je prends les rênes en 92. Et donc, depuis, je continue mon travail et surtout la tradition familiale qui est la qualité, l'innovation.
Vous avez changé beaucoup de choses depuis le début. Vous disiez, on a toujours le même logo, on a toujours la même couleur, on a toujours les mêmes recettes aussi.
Non, on a changé beaucoup de choses, mais on a changé beaucoup de choses en améliorant. Bon, le caviar, on ne le change pas, c'est un produit qui n'a pas de changement. Par contre, on a créé une gamme de caviar qu'on a appelé le caviar autrement. On a créé le caviar liquide, on a créé le caviar en poudre, c'est-à-dire la fleur de caviar, on a créé le caviar en cube, caviar cube, et même une feuille que l'on appelle papyrus, qui est une feuille de caviar.
Mais à l'époque, au démarrage, le caviar, il se consomme toujours un peu de la même manière. Donc vous avez vraiment innové. C'est vous, finalement, qui êtes la référence du caviar aujourd'hui à travers le monde. Quand on pense caviar, on pense Petrossian.
Tout à fait. Là, sans aucun conteste, on est la marque la plus connue dans le monde.
C'est une dizaine
c'est
de...
C'est pas modeste, mais c'est vrai.
Non, mais c'est la vérité, c'est français, on est ravis. C'est une dizaine d'emplacements, de magasins identifiés Petrossian dans le monde.
On a plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de points de vente en France, en Europe, et il y a en plus aux États-Unis, puisqu'on est très présent aux États-Unis, il y a aussi une dizaine de points de vente aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'en fait, on touche aussi le particulier, parce qu'on a un réseau de vente par Internet, qu'on a commencé très tôt, puisqu'on a commencé en 1995, et aux États-Unis, on a un catalogue de vente par correspondance qui existe aussi depuis 1991.
Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, puisque ça se démocratise, en tout cas, on va vers le particulier, est-ce que c'est réservé quand même toujours aujourd'hui à une clientèle sélecte ou est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de s'ouvrir ?
Alors, c'est-à-dire que le caviar, ce qui fait son prix, ce qu'il faut comprendre, c'est la rareté du produit dans l'échelonnement. Alors, il y a une échelle de produits de qualité. Plus on va vers le haut, plus on va vers la rareté, plus on va vers le prix élevé. Plus on va vers le bas, évidemment, c'est les volumes. Et les volumes, évidemment, ils se retrouvent dans tous les circuits de distribution. Maintenant, le caviar d'exception, ça reste un produit de très haut luxe. Maintenant, le caviar, entre guillemets, courant, on le retrouve partout.
Vous faites, je crois, 30% de votre chiffre d'affaires pendant les fêtes, c'est ça ?
Tout à fait.
Vous avez senti justement que les choses changeaient cette année ? Vous avez eu des frémissements vers le haut, vers le bas ?
Bah, cette année, on a perdu 4 week-ends de vente, donc on sait pourquoi. Donc voilà, donc ça influe sur les résultats.
Armen Petrossian, l'avenir pour le caviar Petrossian, c'est quoi ?
Ben, l'avenir, c'est justement de développer toutes ces idées autour du caviar. C'est d'arriver à faire envie aux jeunes de consommer du caviar en leur donnant à goûter du caviar autrement, comme je l'ai expliqué, mais en même temps leur faire comprendre qu'on peut manger un petit peu de caviar et se faire plaisir. Et surtout, pour la fête, on peut avoir d'autres produits, comme par exemple, si je vous ai amené ça qui est ces œufs de brochet fumés, où c'est pas très cher et on peut commencer à avoir l'idée. Qu'est-ce que c'est les œufs de poisson ? Comment c'est ? Il y a les œufs de saumon, il y a voilà, les œufs de cabillaud fumé.
Oui, commencer par ces œufs-là pour aller peut-être plus tard vers le caviar. Catherine, une question ?
On parle de plus en plus de consommation responsable. Est-ce qu'on commence à vous demander du caviar bio ? Est-ce qu'on commence à vous demander un peu de transparence sur la production ou pas encore ? Est-ce que
Oui, alors l'idée bio est un peu fausse parce qu'il existe des alimentations qui sont bio. C'est pour les... On est sur l'élevage toujours, donc on parle d'alimentation bio. Mais aujourd'hui, l'alimentation bio n'est pas forcément tout à fait contrôlable, disons. Voilà. Mmh. Donc, en fait, il y a cette demande, mais aujourd'hui, elle n'a pas grand sens parce que pratiquement toutes les fermes dans le monde utilisent des aliments qui sont très contrôlés, dans lesquels il n'y a pas d'éléments autres que de la farine de poisson, des graisses végétales. Donc, déjà, à la base, c'est déjà relativement bio. Il n'y a pas d'OGM, de farine d'animal, etc. Bon, voilà, c'est ça ce qui est le plus dangereux dans...
Donc c'est déjà un circuit un peu responsable.
Voilà. Et puis après, dans les élevages des sturgeons, on fait très attention à l'eau, à la manière dont l'eau est évacuée, traitée. Donc tous les paramètres, si vous voulez, d'écologique, se retrouvent dans le poisson.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de Petrocian, l'entreprise qui va bien. Merci. Merci Armène Petrocian d'être venu aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h50.
Europe 1.
Les fêtes de fin d'année, c'est le moment où la générosité s'exprime. Vous ne savez pas vers qui vous tournez. La solution, c'est la Fondation de France. Avec, vous allez les découvrir, les Réveillons solidaires. À tout de suite.
Midi 30, 14h.
Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Sur Europe 1 jusqu'à 14h, vous êtes avec Raphaël Duchemin. Nous parlons des réveillons de la solidarité, Raphaël, avec votre invité Axel Davzac.
Les réveillons solidaires, ça vous dit peut-être quelque chose. En effet, encore de trop nombreuses personnes sont seules et vivent ces fêtes de fin d'année sans personne, dans la solitude. Elisabeth, il existe des initiatives et celle d'aujourd'hui vient justement de la Fondation de France.
Oui, cela s'appelle les réveillons de la solidarité. 9% des personnes en France vivent encore totalement isolées. Isolées, c'est quoi ? Bien isolé, c'est être sans cercle familial, sans noyau amical ni professionnel. C'est être totalement seul. Alors, sans que cela soit circonscrit à une soirée, le temps d'une fête, les réveillons de la solidarité, ça peut être des goûters, des déjeuners, profiter pourquoi pas d'un spectacle ou d'une soirée dansante. Des moments de partage avec des voisins, des habitants du quartier ou encore des commerçants. Jusqu'au 6 janvier, plus d'une centaine de réveillons sont organisés partout en France.
Et Axel Davzac est donc avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France. C'est quoi justement vos réveillons solidaires ?
En fait, l'idée des réveillons solidaires, c'était bien évidemment de faire en sorte que tous ces gens qui sont seuls ne se sentent pas particulièrement abandonné ce soir du 31, puisqu'il est encore plus douloureux que tous les autres soirs. Mais surtout, se servir de cette soirée pour recréer du lien. Et puis, puisque nous travaillons avec des associations dans toute la France, dans tous les territoires, parfois, les habitants du quartier voient ces associations, ne connaissent pas les gens qui vont et viennent dans ces associations. Et donc, bâtir des réveillons, mais ensemble. C'est ça la première idée de ces réveillons, c'est que on invite les habitants, qu'on partage un moment avec eux. Et puis l'autre point qui est très important aussi, c'est redonner de la fierté à tous les gens qui sont dans ces associations, qui sont des femmes seules avec des enfants, qui sont des gens en situation irrégulière, qui sont des gens qui cherchent du travail, qui sont malades, qui souffrent de nombreuses formes de vulnérabilité. Et l'idée était de dire que ces réveillons, il fallait que ce soit eux qui les préparent, eux qui les portent, pour aussi partager leur culture, ce qu'ils savent créer de beau, d'intelligent, pour changer le regard et arriver enfin à créer ce lien social qui manque parfois cruellement dans notre société.
Donc vous les responsabilisez, vous faites en sorte que ce soit eux qui créent leur propre moment, leur propre réveillon.
La Fondation de France donc, travaille toute l'année, on soutient plus de 4000 associations pendant toute l'année. Et la manière dont nous travaillons chaque jour, c'est de se dire qu'il n'y a que les gens sur le terrain qui savent construire et nous aider dans les réponses à apporter. Ce sont eux qui savent si la question de la recherche d'emploi, elle est liée à un problème de mobilité, elle est liée à un problème de formation. Donc, ça a deux objets, si vous voulez. La première raison, c'est qu'il faut qu'on apporte des réponses intelligentes. Et la deuxième, c'est que les gens se sentent utiles, les gens sont fiers et savent aussi démontrer, ils sont souvent rejetés, qu'ils ont une vraie valeur pour notre société.
Alors jusqu'au 6 janvier, il y a plus d'une centaine de réveillons qui sont organisés. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples ? Ou par exemple, là, aujourd'hui, il y en a, c'est partout en France ?
Alors effectivement, puisqu'il y en a 150, il y a 25 000 personnes qui participeront à tous ces réveillons. Donc des réveillons qui vont être de 50 à 100 personnes, qui sont à chaque fois portées par une association. Il y a un projet que j'aime beaucoup parce qu'il est porté par des jeunes de 10 à 14 ans, dans l'Aude, dans un petit village de l'Aude où il y a beaucoup de personnes âgées isolées et qui se retrouvent très seules pour les fêtes. Et pendant tout le mois de décembre, ils sont allés emballer les paquets cadeaux dans les magasins gratuitement en demandant un peu d'argent. Et avec cet argent, ils vont fabriquer un réveillon et le partager avec toutes les personnes isolées et tous les habitants qui souhaitent se joindre à eux.
Et c'est dans quel village ?
Dans un petit village à côté de Carcassonne qui s'appelle Caudalu.
Oui, c'est bien de le signaler. On les salue évidemment parce que c'est une très belle initiative.
Comment peut-on faire, nous, pour vous aider, nos auditeurs, nous autour de la table, comment faire?
Ben la fondation. Alors d'abord, on peut être à l'écoute des associations de quartier. Pour ces réveillons, on peut être à l'écoute et ouvrir les yeux et aller partager un moment, parce que effectivement, il y en a qui sont ce soir, mais il y en a qui sont encore demain,
jusqu'au 6 janvier, voilà,
qui vont s'étaler. Donc aller ne serait-ce que passer une heure avec les gens, partager, échanger un moment. Et puis la Fondation de France ne vit que de la générosité des donateurs. Vous savez que la situation pour le secteur a été particulièrement difficile. Donc faites un don sur fondationdefrance.org.
Catherine ?
Il a été prouvé qu'aider l'autre, ça rend heureux. Est-ce que vous avez de plus en plus de bénévoles aujourd'hui ? Enfin, globalement en France, est-ce
qu'il y a... Alors en France, bien sûr, il y a de plus en plus de bénévoles. C'est très frappant de voir à quel point cette société... Moi, je dis toujours, on dit que les gens sont individualistes. Mmh. Moi, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ma perception, parce qu'il y a beaucoup d'associations et de gens qui se donnent beaucoup de mal et qui s'engagent dans le bénévolat. Nous, on a plus de 600 bénévoles qui travaillent à la Fondation de France, qui donnent leur temps. Et je vous rejoins. Partager, donner du temps, ce sont des moments merveilleux.
C'est donc les réveillons solidaires jusqu'au 6 janvier. Il y en a partout en France. Renseignez-vous, allez-y, allez les aider, donnez de votre temps. Ça fait toujours du bien de donner à l'autre. Merci de l'avoir rappelé, Catherine, et merci d'avoir été avec nous pour ce 31. Merci à vous et à la Fondation de France. Elisabeth, on se dit à
l'année prochaine.
Ou même à l'année prochaine.